La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Deux élections sénatoriales décisives se déroulent aujourd'hui dans l'État américain de Géorgie, mais c'est un autre vote prévu lui demain qui retient votre attention ce matin.
Oui, ce vote, ce sera ce mercredi, celui des élus au Congrès américain, Sénat et Chambre des représentants réunis, appelés à accomplir la dernière étape décisive avant la prise de fonction de Joe Biden le 20 janvier. Ils doivent certifier une bonne fois pour toutes les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre et donc la victoire du démocrate Joe Biden. Ou bien, pour le dire différemment, en se plaçant du côté républicain, ils doivent confirmer la défaite de Donald Trump. Alors on sait que ce dernier va contester jusqu'au bout cette défaite, clamer que les résultats ont été truqués contre toutes les décisions de justice qui ont été rendues jusque-là. On a lu et entendu hier, grâce au Washington Post, comment Trump a tenté de pousser le secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, à commettre une fraude électorale pour lui donner la victoire. Et à présent, dans le même quotidien, on documente comment Donald Trump, le forcené de la Maison-Blanche, déchire, il n'y a pas d'autre mot, le bon vieux parti républicain entre ceux qui demain vont accepter de le suivre jusqu'au bout dans son déni et ceux qui feront passer avant tout la défense des institutions démocratiques américaines. Le président sortant, dixit le Washington Post, est en train de saboter son propre parti en faisant pression sur ses élus afin qu'ils refusent donc de valider les résultats de la présidentielle. Et Politico de confirmer, Trump a particulièrement concentré sa colère depuis dimanche sur le sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton, parce que celui-ci a dit qu'il reconnaîtrait la victoire de Biden demain, même s'il continuait de penser qu'il y a eu des irrégularités dans le décompte des voix par correspondance. Eh bien, selon lui, rien ne mérite qu'on aille contre la voix clairement exprimée par les citoyens américains. Rendu furieux par cette prise de position contre lui, Donald Trump a ouvertement menacé Tom Cotton de détruire sa carrière politique, sachant que le sénateur a des vues sur l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024. Il a juré donc de tout faire pour qu'il n'obtienne jamais cette investiture. Ça n'a pas marché avec Tom Cotton qui maintient sa position, mais d'autres prétendants à 2024, d'après le site d'info Axios, sont complètement tiraillés face au vote de demain. Ce vote, écrit Alaina Trini d'Axios, pourrait bien devenir un marqueur politique fondateur pour l'avenir du Parti républicain, un vote de principe à l'aune duquel les élus d'aujourd'hui seront jugés tout au long de leur carrière future, un peu comme l'a été pour les démocrates le vote contre la guerre en Irak en 2002. Et en la matière, selon l'estimation du professeur de Harvard, Tom Nichols, pour The Atlantic, il reste une majorité d'élus républicains au Congrès qui soutiennent, contre vent et marée, Donald Trump dans sa contestation jusqu'au boutiste, ce dont il s'apprête à se rendre responsable demain en votant contre la certification des résultats, clame Tom Nichols. C'est pire que de la trahison.
Il y a tout de même des voix influentes, Camille, chez les républicains qui tentent de raisonner le président sortant avant qu'il n'aille trop loin.
Oui, Axios nous raconte comment les très conservateurs Cheney, père et fille, Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush, et la sénatrice Liz Cheney, usent de leur influence pour essayer de raisonner leur camp. Cheney, fille, signe dans la National Review un long argumentaire destiné aux autres élus républicains pour les convaincre qu'un rejet de la victoire de Joe Biden serait un précédent exceptionnellement dangereux qui mettrait, dit-elle, les républicains en rupture avec l'esprit de la Constitution américaine et avec le socle de leur valeur démocratique de toujours. Dick Cheney, le père, de son côté, a réuni tous les 10 anciens secrétaires à la défense américains encore en vie pour co-signer une tribune publiée dimanche dans le Washington Post dans laquelle ils implorent Donald Trump de ne pas mêler l'armée américaine à sa contestation des résultats. Car oui, confirme le New York Times, il y a une vraie crainte que le président battu n'essaye de mobiliser la force militaire pour se maintenir au pouvoir au-delà du 20 janvier. Il y a une insurrection qui se prépare contre la démocratie américaine, la plus dangereuse depuis des générations, écrit Peter Baker dans le Times. Et cette insurrection n'est pas ourdie par quelques révolutionnaires marginaux. Non, elle est préparée depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche par celui-là même qui était censé protéger cette démocratie. Fin de citation.
Et puis alors, toujours aux États-Unis, Camille, une nouvelle qui fait trembler les grands groupes de la Silicon Valley.
Et oui, il fallait bien que cette grande innovation sociale arrive jusque là-bas. Des salariés de la société Alphabet, qui regroupe toutes les activités de Google, annonçaient hier dans le New York Times qu'ils allaient briser un tabou absolu au pays des GAFAM. Ils créent un syndicat, oui, un syndicat pour défendre leurs droits face à une direction de Google avec laquelle, nous dit-on, les conflits se multiplient depuis des années. Un syndicat dans la Silicon Valley, à croire que les canapés et les baby-foot dans les bureaux, ça ne suffit pas finalement à rendre les salariés heureux. Le San Francisco Chronicle estime à 200 le nombre de rebelles chez Google qui sont prêts à prendre leur carte auprès de l'Union des travailleurs américains du secteur de la communication, des employés qui ne veulent plus voir se multiplier les inégalités dans leur entreprise et les cas de harcèlement ou de discrimination dont sont victimes ceux qui osent dénoncer ces mauvaises pratiques, des salariés qui évoquent aussi des débats sur le fait que leur compagnie accepte des contrats gouvernementaux moralement contestables comme le développement de drones militaires. Le nouveau syndicat Google va donc tenter de faire entendre la voix des salariés et de moraliser un tant soit peu la marche de ses affaires. Et bien sûr, découvrir les vertus du syndicalisme en 2021, ça peut sembler tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et selon Lila McLellan du magazine en ligne Quartz, la prise de conscience dépasse la seule Silicon Valley. Avec le coronavirus, cette année écoulée, les salariés américains semblent avoir compris qu'ils étaient au cœur de toute la production de richesses, que les entreprises n'existent pas sans eux, sans leur engagement décuplé par les défis posés par la pandémie. Les dernières études d'opinion aux États-Unis montrent un regain de popularité des syndicats qui pourraient donc jouer un rôle accru dans le fameux monde d'après.